franceinter.fr.
Et c'est le journal de Philippe Abitboul.
Merci Stéphane. Deuxième partie d'Agora, bien sûr, à 13h20. Bonjour à toutes et à tous. Un seul titre à la une de l'actualité, les pluies diluviennes et les inondations meurtrières de la nuit dernière. Dans les Alpes-Maritimes, au moins 16 morts et 3 disparus depuis ce matin. Le département pense ses plaies, les témoignages de soutien affluent. Hommage de la nation aux victimes, a déclaré François Hollande. Le chef de l'État est actuellement sur place en compagnie de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Le président est allé se rendre compte de la situation au plus près sur les points les plus critiques comme la commune de Biotte. La nuit dernière, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région ont été meurtrières avec des dégâts matériels considérables, des routes coupées. Près de 30 000 foyers sont encore privés d'électricité. Les parkings et les garages envahis par une lame d'eau et par la boue. Des appartements au rez-de-chaussée dévastés, vision d'apocalypse. Des voitures ont été emportées jusqu'à la mer par des torrents qui se sont formés en quelques minutes. Beaucoup d'habitants se sont retrouvés piégés ou sont morts noyés en tentant de récupérer leur voiture. Dans ce journal, nous entendrons bien sûr François Hollande. Des mesures exceptionnelles seront annoncées mercredi en Conseil des ministres et l'état de catastrophe naturelle va être décrété. Pour vous, dans ce journal, nous avons aussi recueilli des témoignages de victimes qui ont échappé au pire. Nous irons également à Nice, où un PC crise a été mis en place à la préfecture. Et nous aurons en ligne le député maire de la ville, Christian Estrosi. L'épisode pluvieux s'est maintenant éloigné. Nous essaierons de comprendre pourquoi des pluies d'une telle violence, des pluies concentrées sur 2 heures à peine. Comment expliquer ce phénomène? Nous poserons la question à Joël Collado, notre monsieur météo. Et nous verrons enfin le temps qui s'annonce pour les prochaines heures en fin de journal. Avec un bulletin complet, ce sera nettement plus calme sur la région sinistrée.
France Inter.
Tôt ce matin, François Hollande a exprimé la solidarité de la nation. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le président et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se sont ensuite rendus sur place. C'était en fin de matinée, passage notamment à la maison de retraite de Biotte, cruellement touchée par les intempéries. Et c'est François Hollande qui a donné les chiffres du nouveau bilan.
Ici à Biotte, pas loin de où je parle, une maison de retraite a été inondée et il y a eu 3 morts. Et je veux d'abord dire tout mon soutien aux familles qui sont concernées et qui sont aujourd'hui en deuil. Je veux également saluer le travail de l'ensemble des agents. Je veux également dire que les policiers et les gendarmes ont joué tout leur rôle. L'État prendra également sa part et dès mercredi au Conseil des ministres, il y aura la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et les indemnisations qui seront ensuite versées le seront dans un délai de 3 mois. Et enfin, il y aura un fonds de soutien aux collectivités locales qui sont les plus directement frappées pour qu'il puisse y avoir là aussi la solidarité de la nation.
François Hollande au micro de Grégory Julien. Et maintenant direction Mandelieu-la-Napoule, où plusieurs personnes ont été piégées dans un parking souterrain. Marie-Christine Loriol, le bilan pour Mandelieu.
À l'heure actuelle, le bilan est de 7 personnes décédées, piégées dans les garages en sous-sol de ces 2 résidences situées sur les hauteurs de Mandelieu-la-Napoule. 3 corps ont été retrouvés au domaine du Cap-Vert, 4 autres au Lavandin, 3 femmes et un homme qui avaient réussi à monter dans leur véhicule quand une vague les a submergés. Un vacarme assourdissant, raconte cette habitante.
En fait, on aurait dit qu'il y avait un bruit de cyclone et en fait, c'était l'eau de la montagne qui descendait, qui s'engouffrait dans ce garage-là. Et dans le garage de la résidence d'à côté. Donc c'était un bruit très très fort, très sourd, de l'eau qui s'engouffrait, les gens qui criaient, qui pleuraient.
Une seule personne est toujours portée disparue. Les plongeurs continuent leur recherche dans les parkings en sous-sol, mais l'eau très opaque, boueuse, ne leur facilite pas le travail. Pour Fabrice, l'erreur a été de vouloir sauver les voitures alors qu'il était trop tard.
Et en arrivant devant le portail, c'était trop tard. Les voitures flottaient. On n'a rien pu faire, ça a été très très vite. On a eu quand même très peur parce que c'est monté très vite. C'est une vague et ça a été vraiment impressionnant. C'est très violent, très choquant. J'ai un fils de 9 ans et je pense qu'il va s'en souvenir longtemps.
En fait, c'est le Riou qui a débordé, nous a confié le maire Henri Leroy, coupant court aux rumeurs qui circulaient sur un lâcher de barrage. Mandelieu-la-Napoule, Marie-Christine Loriol, France Inter.
Autre témoignage, celui de Cédric Emasso qui habite lui aussi la résidence du Cap-Vert à Mandelieu. Dans cette résidence, des habitants sont morts piégés par les eaux dans les parkings. Cédric a bien vu et entendu l'alerte météo à la télé, mais passer du visuel au réel, c'est une toute autre affaire. Cédric a eu du mal à imaginer que la vague de pluie était aussi pour lui.
On a évacué chez nos parents, hein, voilà, pour vous dire. Parce que là, la situation ne sera pas rétablie avant 2-3 jours. Et voilà, pour mettre tout au propre, donc ça va être très compliqué. Hein. Il y a des dégâts assez de partout là, dans la ville. Voilà. Ça génère une émotion particulière parce qu'on regarde à la télé en Corse à 19h et le soir même, 2 heures après, ça arrive chez vous. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, ça va assez vite et c'est imprévisible. C'est vraiment imprévisible, la force de la nature est imprévisible. Mais je pense quand même qu'on aurait pu anticiper la chose, vu que c'est arrivé auparavant dans tous les départements. Et bon, on n'a pas été assez vigilant, hein, certainement. L'homme se croit certainement plus puissant que la nature. Bon, bon, tout le monde a été touché. Hein.
Propos recueillis par Anne Patinec. 7 morts à Mandelieu, 3 dans cette maison de retraite de Biot, 3 autres à Valoris, Golfe-Juan, des victimes également au camping d'Antibes. Au total, 16 morts et 3 disparus. Le bilan, hélas, n'est pas définitif. Les chiffres vont encore évoluer. Lauriane Delanoë, bonjour.
Bonjour.
Lauriane, vous êtes actuellement au PC Crise installé à la préfecture de Nice. Avez-vous des précisions sur ce bilan réactualisé il y a quelques minutes par François Hollande ?
Oui, bilan qui vient même d'être réactualisé ici en préfecture, puisque des habitants à Cannes, des habitants du quartier Jourdan, signalent la disparition de l'une de leurs voisines. Ils ne l'ont pas vue depuis hier soir. Et donc, ils s'inquiètent. Ils pensent qu'elle fait partie de ces personnes emportées par les eaux. Il y a donc maintenant, à 13h, 4 personnes recherchées en ce moment. Donc, une deuxième à Cannes, c'est une Ukrainienne qui vit sur la Croisette. Comme à Mandelieu, elle a voulu récupérer sa voiture dans son parking et elle n'est jamais remontée dans son appartement. C'est donc un comportement, on l'a entendu avec ces témoignages à Mandelieu, qui a tué beaucoup de personnes cette nuit, 7 personnes à Mandelieu et donc toujours une personne recherchée. Les corps sont retrouvés un à un depuis ce matin dans ces garages au cours d'opérations de pompage. Chaque fois ici à la cellule de crise, ce sont les policiers qui viennent prévenir leurs confrères, les pompiers, pour leur dire que voilà, un corps a été retrouvé. Donc il y a un disparu de moins. Pour les familles, à la préfecture, on a mis en place un numéro vert. C'est le 04 93 72 22 22, un numéro pour accompagner toutes les familles. Et du côté des pompiers, tenez ce chiffre, depuis hier soir, il y a eu plus de 3000 appels, 3000 personnes qui ont appelé au secours. En tout, ça a donné lieu à plus de 500 interventions. Et aujourd'hui, pour l'instant, les pompiers font maintenant des opérations de reconnaissance. Ils vont dans des mobil-homes, dans des villas un peu reculées, où il n'y a pas forcément de signalement, mais où il pourrait y avoir encore des victimes dans le département. Donc maintenant, l'heure est au secours et aux réparations. Il y a encore quelques centres d'hébergement ouverts, 2 en tout, entre Cannes et Mandelieu. La circulation sur l'autoroute A8 est encore limitée sur une seule voie entre Antibes et Villeneuve-Loubet, donc l'ouest du département. Et puis le gros blocage pour l'instant, c'est sur le réseau SNCF. Il n'y a toujours pas de train entre Toulon et Nice. À Nice, Lauriane Delanoë, France Bleu Azur pour France Inter.
En ligne maintenant, Christian Estrosi, le député maire, les Républicains de Nice. Bonjour Christian Estrosi. Christian Estrosi, m'entendez-vous ?
Je vous entends.
Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter. Christian Estrosi, 16 morts, 3 disparus. Bilan donné il y a quelques minutes par François Hollande. On a du mal à admettre la lourdeur de ce bilan.
Oui, nous avons beaucoup de souffrances partagées. Je suis avec le président de la République. Nous avons notre compassion aux uns et aux autres. Après avoir passé moi-même une nuit sur le terrain et avec tous nos collaborateurs, nos agents, collectivités confondues, qui ont donné du meilleur d'eux-mêmes et auxquels je veux dire toute ma reconnaissance.
Vous êtes ému, Christian Estrosi.
45 ans dernières années, nous n'avons d'épisode aussi violent de cette nature. J'espère que l'état des lieux n'ira pas au-delà des chiffres à que nous avons. Il y a encore des zones à exploiter et à mener les investigations nécessaires pour être totalement serein de ce côté-là. Et je pense surtout à cet instant aux familles. Nous mettrons tout ce qu'il faut pour accompagner aussi l'économie de ceux qui sont sinistrés, que nous avons visités à pouvoir redémarrer.
Christian Estrosi, quelles mesures avez-vous déjà prises et celles que vous comptez prendre ?
Les premières mesures, c'est d'obtenir que dès le prochain Conseil des ministres et le président de la République semble disposé à nous l'accorder, nous puissions avoir une déclaration d'état de catastrophe naturelle. Avec collectivité, bien évidemment, nous débloquerons des subventions et des fonds pour accompagner la relance de l'économie. Et puis nous allons surtout, dans l'immédiat, aujourd'hui nous prenons, et depuis cette nuit, nos personnels sociaux étaient sur le terrain pour accompagner psychologiquement ces familles qui sont dans la détresse et auxquelles nous devons donner tout notre cœur et le meilleur de nous-mêmes.
Je disais à l'instant, Christian Estrosi, vous paraissez ému.
Oh, je le suis, parce que lorsque vous savez la charge que nous avons à assumer, qui nous a été confiée, et que c'est dans ces moments-là qu'on se dit est-ce que on n'aurait pas pu éviter cela. Ces dernières années, nous avons investi beaucoup, beaucoup d'argent pour protéger les plans de prévention des risques. Et je pense que les dégâts auraient pu être, et au plan humain et au plan matériel, plus importants. Mais en même temps, lorsque l'on sait qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont des vies achevées pour certains, des familles brisées pour d'autres, forcément, quand on est un responsable public qui a du cœur, on ne peut pas rester insensible à tout cela, et on est tout simplement un des leurs parmi les leurs, et on peut se dire que ça pourrait être n'importe quel membre de notre vie qui soit concerné aussi. J'ai passé une grande partie de la nuit parmi eux, ce matin encore, aux côtés du président de la République, où dans ces moments-là, il ne peut y avoir de débat et de confrontation idéologique, mais que de la solidarité nationale, et que je remercie d'être venu dans notre département en espérant qu'il débloque les moyens que nous sollicitons auprès de l'État.
La réponse sera donnée mercredi prochain au Conseil des ministres. Merci. Absolument. Christian Estrosi. Merci Christian Estrosi, député maire de Nice. Pas de train ce dimanche, ajoute, entre Toulon et Nice, aucun train en circulation, excepté pour rapatrier des pèlerins italiens de retour de Lourdes et bloqués toute la nuit. Le trafic devrait être très perturbé également demain lundi. Joël Collado, bonjour.
Bonjour.
Joël, avant de vous écouter pour un bulletin météo complet à la fin de cette édition, Joël Collado, alors c'est vrai, hier soir, Météo France avait émis un avis de vigilance orange, pluie et inondation pour la région, mais on a quand même, voilà, mais on a quand même du mal à comprendre cet épisode orageux méditerranéen, ces pluies torrentielles qui, en à peine quelques heures, voient tomber... d'eau tombée qu'en deux mois de pluie, et de surcroît des précipitations qui dévastent tout, on l'a encore constaté la nuit dernière.
Oui, oui, des précipitations particulièrement dramatiques, hein, sur les Alpes-Maritimes, effectivement, et les départements des Alpes-Maritimes, comme les départements proches de la vallée du Rhône, avaient été placés en vigilance orange en raison de cette menace d'orage qui s'était développée très tôt dans l'après-midi sur les départements proches de la vallée du Rhône, s'est propagée hier soir sur les Alpes-Maritimes. À 18h, par exemple, il n'y avait pas d'orage, hein, sur la région de Mandelieu-la-Napoule, comme ceux du côté de Cannes, d'Antibes et de Nice, et ces orages sont devenus explosifs, et entre mer et les premières collines, ces orages sont restés stationnaires pendant 3 heures. Ils se sont remplis comme une éponge et puis se sont vidés sur cette région de manière dramatique. En une heure, par exemple, on a battu tous les records du côté de Cannes. On n'avait jamais vu autant de précipitations en une heure du côté de Cannes. Et ces orages ont après vite disparu en laissant derrière eux, malheureusement, beaucoup de victimes.
Merci Joël. Bulletin météo complet de Joël Collado à la fin de ce journal. Avant de refermer ce chapitre, je vous redonne le bilan des intempéries de la nuit dernière dans les Alpes-Maritimes. Il s'élèverait à 16 morts et 4 disparus.
Inter 13. Philippe Habitboul.
Le reste de l'actualité avec des élections législatives au Portugal. En poste depuis juin 2011, le premier ministre de centre droit, Pedro Passos Coelho, en tête dans les sondages, brigue un second mandat de 4 ans face à son rival de gauche, António Costa, le secrétaire général du Parti Socialiste. Alors les Portugais votent, mais sans grande illusion, il est vrai, car en toile de fond, il y a la question, faut-il poursuivre la politique d'austérité menée depuis 4 ans, Olivier Bonamici?
Des années de sacrifices avec des hausses d'impôts records, avec des salaires qui restent extrêmement bas, 900 euros en moyenne au Portugal, la crise est encore dans tous les esprits. Et ce n'est pas hasard si ces 3 dernières années, 500 000 Portugais ont quitté le pays, c'est énorme. C'est la plus grosse vague d'émigration portugaise depuis les années 70. Et puis il y a la pauvreté qui touche de plus en plus de monde. On voit même des cantines scolaires rester ouvertes le week-end et pendant les vacances pour donner à manger aux enfants. et à leurs familles. Oui, les dégâts de la crise sont énormes, et pourtant ce soir, la droite, qui a infligé une cure d'austérité sans précédent, pourrait être réélue. Alors pourquoi ? Les Portugais sont-ils masochistes ? Non, ils ont plutôt la sensation de voir le bout du tunnel, que le pire est passé, et il y a quelques signes encourageants, comme le retour de la croissance. Il y a surtout l'idée pour beaucoup de gens que même si les socialistes revenaient au pouvoir, leur marge de manœuvre serait très limitée face aux exigences européennes, et l'exemple de Syriza ne joue pas en faveur de la gauche portugaise. Plus que révoltés, les Portugais sont aujourd'hui résignés, comme si pour eux, l'austérité était presque une fatalité. À Lisbonne, Olivier Bonamici pour France Inter.
Israël, vive tension à Jérusalem et mesures exceptionnelles avec le bouclage de la vieille ville. La zone est même interdite aux Palestiniens pour 48 heures. Cette mesure fait suite aux deux attaques au couteau qui ont coûté la vie à deux Israéliens, Étienne Monin.
En vieille ville, entre deux colonies israéliennes gardées par des policiers, dans la rue arabe où a eu lieu la première attaque, les stores des magasins sont tirés, les entrées sont restreintes, les habitants soumis à cet état de tension, explique Alex.
Nobody likes problems. Everybody wants to live in peace.
Personne n'aime les problèmes, tout le monde veut vivre en paix, tout le monde veut pouvoir travailler, mais avec des gestes comme ça, rien n'est normal et c'est tellement difficile de revenir à la normalité. À moins de 5 km de là, dans le cimetière Givat Shaul, des milliers d'Israéliens assistent aux obsèques du rabbin assassiné. Il est mort après avoir tenté de secourir le couple attaqué. Sawa Damski le connaissait. Il vit dans une colonie en Cisjordanie. Il porte un fusil automatique à l'épaule. Il pense qu'il faut sortir du statu quo. Les Arabes doivent comprendre qu'ils n'ont plus d'espoir. Il n'y a pas d'autre terre dans ce pays. Et quand ils n'auront vraiment plus d'espoir, alors il y aura la paix ici. L'ambiance à Jérusalem est tendue. Certains Arabes n'iront pas travailler ce soir dans les restaurants de la partie juive à l'ouest. Hier soir, des extrémistes les ont ouvertement menacés. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
19 morts, 12 membres de MSF parmi les victimes. Le bombardement de l'hôpital de Médecins Sans Frontières à Kunduz en Afghanistan après le raid attribué à l'armée américaine. Barack Obama promet une enquête exhaustive. Il a présenté ses plus profondes condoléances. Mais le président américain dit attendre les résultats de l'enquête avant de porter un jugement définitif sur les circonstances de cette tragédie. Le pape François a ouvert ce matin à Rome le synode des évêques, ouverture traditionnelle avec une messe célébrée à la basilique Saint-Pierre, synode qui a pour thème la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. C'est en fait le second volet d'une vaste consultation lancée par le pape François pour répondre aux défis actuels des familles. La question des divorcés, remariés et des unions libres sera notamment débattue. Mathilde Imberti, il y avait donc pour commencer une messe d'ouverture ce matin.
Revêtu d'une aube verte, dans une basilique Saint-Pierre pleine, le pape a ouvert par une messe ce synode des familles. Face à lui, les 270 pères synodaux qui, durant 3 semaines, vont échanger leurs réflexions sur la famille. 5 Français parmi eux. Le pape dresse un premier constat devant ses ecclésiastiques du monde entier. L'Église doit exercer sa mission dans un contexte social et matrimonial très difficile. L'Église, dit le pape, est invitée à vivre sa mission dans la charité, qui ne pointe pas du doigt pour juger les autres, mais se sent le devoir de chercher et de soigner les couples blessés. Le pape met l'accent également sur l'indissolubilité du lien conjugal et l'accompagnement au mariage. Une des clés, selon lui, pour à la fois réduire le nombre de divorces et permettre aux couples unis civilement une entrée dans l'Église. Quant aux unions homosexuelles, le coming out d'un père polonais, membre de la curie romaine, à la veille de ce synode, a mis de l'huile sur le feu, le Vatican le révoquant immédiatement de ses fonctions. Sur le fond, les observateurs estiment que cet épisode pourrait jouer davantage en faveur du clan conservateur. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Ce deuxième synode sur la famille qui rendra ses conclusions le 25 octobre. Et l'on passe au sport avec la Coupe du Monde de rugby. Pour les Anglais, la défaite d'hier, c'est quasiment la fin du monde. Pour être plus réaliste, il faudrait plutôt dire la fin d'une époque. Hier, défaite historique à Twickenham des Anglais, battue chez eux 33-13 par l'Australie, battue et surtout éliminée dès le premier tour. Des Anglais humiliés devant leur public, impuissants à répondre aux jeux créatifs des Wallabies. L'Angleterre, qui organise ce mondial, le quitte donc prématurément par la petite porte. Arnaud Carré, à Cardiff, où vous vous trouvez pour le match de dimanche prochain entre la France et l'Irlande à Cardiff. Arnaud, en terre galloise, on jubile, je suppose, de savoir que le Pays de Galles a désormais son billet en poche pour les quarts de finale. Et depuis hier, les commentaires, on l'imagine, vont bon train sur ce séisme qui a ébranlé hier le rugby anglais. Et pour ces deux raisons, j'ajouterai que les pubs de Cardiff ont dû faire le plein hier soir.
On s'est attardé un peu plus que de raison. Hier soir, dans les pubs de Cardiff, les supporters gallois ont fêté à leur manière la qualification et ont repris une tournée pour célébrer la chute de la maison anglaise. Se qualifier, c'est bien. Le faire aux dépens du grand rival et voisin, c'est nettement mieux. Dans la presse ce matin, le Western Mail savoure l'humiliation subie par l'Angleterre. Le Ways Online, lui, publie des photos de supporters gallois hilars, faisant la nique au 15 de la Rose. Une Rose qui s'est fanée, lui répond de l'autre côté de la frontière, le Daily Mail, qui insiste sur le côté historique de ce couac, le premier dans l'histoire de la Coupe du Monde pour un pays organisateur. Comme les supporters, la presse anglaise est encore sous le choc. The Independent titre sobrement sur les regrets anglais, avec la photo du capitaine Chris Robshaw, tête basse et main sur les hanches. Même si le Sunday Mirror réclame le départ immédiat de Stuart Lancaster, le sélectionneur, l'heure n'est pas encore au règlement de compte, un peu comme si l'Angleterre ne croyait encore qu'à un mauvais rêve. Cardiff, Arnaud Carré, France Inter.
Et au programme ce dimanche à 15h30, Argentine-Tonga à Leicester et dans le groupe de la France à 17h45, Irlande-Italie à Londres. Le football Ligue 1 Championnat de France, la suite et fin de la 9e journée avec cet après-midi Lorient-Bordeaux-Monaco-Rennes, Caen-Saint-Etienne et à 21h le Classico PSG-Marseille. Ce sera bien entendu au Parc des Princes. On va se quitter maintenant avec le bulletin météo important pour tous ceux qui habitent et qui nous écoutent sur la Côte d'Azur.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de chaussettes et collants en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie cachemire, pour hommes et femmes. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Joël Collado, on vous retrouve pour cette fois un bulletin complet et on commence bien évidemment par le temps prévu pour la Côte d'Azur.
La Côte d'Azur, après les orages meurtriers, a retrouvé le soleil et cet après-midi, le temps sur l'ensemble du bassin méditerranéen restera calme avec entre Roussillon et Provence simplement des nuages d'altitude. Sur le nord-est, les pluies s'échappent. Dans l'après-midi, entre Lorraine, Alsace, Bourgogne, il y aura un peu de soleil. Sur le nord, le bassin parisien, le centre, grisaille et brouillard finiront par se morceler. À Paris, le soleil sera quand même un peu moins généreux que ce matin. Et puis en allant vers l'ouest, où les nuages se multiplient, s'épaississent, si entre la Normandie, le Poitou, le Limousin, la région Midi-Pyrénées, le soleil cet après-midi réussit encore à filtrer, près de l'Atlantique, où le vent de sud-est est sensible, il ne va pas tarder à pleuvoir. Ces pluies qui toucheront les côtes sud de la Bretagne à l'heure du déjeuner, puis la Vendée et la Charente-Maritime, seront en Aquitaine beaucoup plus dispersées. Et les températures cet après-midi, le plus souvent comprises entre 17 et 20 degrés, elles atteindront sur la Côte d'Azur 22 à 23 degrés, 24 à 26 degrés sur la Corse. Demain, dans la douceur, les pluies venues de l'océan affecteront surtout une grande moitié nord de la France.